Escale, un magazine hebdomadaire de la Radio des Nations Unies. Escale.
Invité de cette édition spéciale, Cheikh Sidi Diarra, conseiller spécial de Ban Ki-moon pour l'Afrique. Cheikh Sidi Diarra, qui a travaillé auprès de Ban Ki-moon pendant les 5 dernières années sur des dossiers aussi divers que l'économie, la sécurité, les dossiers régionaux ultra sensibles, la croissance et certainement le développement. Alors, je vous propose pendant ces 15 minutes de faire une courte escale avec moi dans les bureaux de Cheikh Sidi Diarra qui nous ouvre ses portes, mais aussi son journal parlé sur ces 5 années écoulées, 5 années de partenariat et de collaboration étroite avec le secrétaire général des Nations Unies. Cheikh Sidi Diarra, bonjour.
Bonjour.
Alors, merci de nous accorder cet entretien. Toujours heureux de vous avoir au micro de la radio des Nations Unies. Vous avez travaillé auprès de Ban Ki-moon, le secrétaire général de l'ONU, pendant les 5 dernières années. 5 années marquées par de nombreux soubresauts politiques et sociaux, en Afrique notamment. Quelle est l'évaluation que vous en faites? Les Nations Unies ont-elles été présentes presque sur tous les fronts ou pas pendant ces 5 dernières années?
Merci de me donner cette opportunité. En effet, les Nations Unies ont été présentes sur le terrain en Afrique par ces différentes représentations résidentes dans la plupart des pays africains, mais également par les missions politiques, sécuritaires ou de maintien de la paix que nous entretenons dans les pays qui sont en situation de conflit pour créer une atmosphère de dialogue et de retour à la paix. Nous avons aussi été présents par le fait que nous avons pris à bras le corps les questions relatives aux priorités de développement socio-économique des pays africains. Et le secrétaire général a mis en place un groupe de travail qui est animé par lui-même et par 7 autres chefs d'institution, dont le président de la Banque mondiale, le président de la Banque africaine de développement, le président de la Banque islamique de développement, le secrétaire général de l'OCDE, et pour n'en citer que quelques-uns, et qui ont réfléchi ensemble sur comment faire pour que l'Afrique puisse faire des réalisations ou des avancées importantes vers la réalisation des objectifs du millénaire pour le développement.
Vous mordez-vous dans l'économie, Cheikh Sidi Diarra? Donc, puisque c'est votre sujet fétiche, on va commencer par le chapitre économie. Vous êtes très fier de la croissance en Afrique, mais est-ce que c'est suffisant de dire que l'Afrique peut décoller parce que la croissance en Afrique est sur le bon chemin, alors que l'indice de développement humain dans la plupart des pays d'Afrique subsaharienne est bas, et alors que la plupart des pays africains n'ont pas atteint les objectifs du millénaire pour le développement et ne vont pas les atteindre d'ici 2015?
Non, la croissance économique à elle seule ne suffit pas pour faire décoller un pays, vous l'avez dit. Il faut effectivement que les capitales humaines soient aussi formées. Et au-delà de ça, il faut que l'indice de la vulnérabilité économique soit aussi réduit. Et l'indice de la vulnérabilité économique, c'est la tendance graduelle d'une économie à progresser pour atteindre un point tel que le progrès devienne irréversible et que le pays ne retombe dans sa situation antérieure. Mais cela étant dit, je pense qu'au-delà de la croissance économique, il y a aussi la nécessité de mettre en place une base infrastructurelle qui soutienne l'économie et assurer une diversification de l'économie. Une diversification, c'est-à-dire ne pas laisser l'économie dépendre uniquement de un ou de deux produits, essentiellement des produits agricoles ou des ressources résultant du secteur minier. Donc, diversifier l'économie et faire en sorte que les différents segments de l'économie soient attachés l'un à l'autre et qu'ils soient source de production l'un pour l'autre. Voilà une des conditions. Il faudrait en plus qu'une fois que les ressources sont générées, qu'on ait une approche inclusive de redistribution des richesses. Il faut que tous les segments de la société puissent d'une manière ou d'une autre profiter des richesses qui sont créées au niveau de l'État, soit par l'intervention de l'État, soit par l'intervention du système des ONG, de la société civile, ou par l'intervention du secteur privé lui-même.
Quel exemple d'une économie africaine qui a décollé correctement et qui pourrait servir de modèle d'économie africaine réussite à d'autres pays si les autres ingrédients d'une économie réussite sont rassemblés, je veux dire la sécurité, la paix et le développement, la bonne gouvernance.
Il y a deux types de progrès, deux grandes tendances que l'on voit dans les pays. La première tendance, c'est celle des pays qui sont riches en matières premières, en hydrocarbures, en minerais, et qui donc génèrent des revenus et augmentent substantiellement le revenu par tête d'habitant.
Par exemple?
Il y a des pays comme la Guinée équatoriale qui a multiplié par 3 ou 4 le niveau par tête d'habitant requis pour sortir de la catégorie des pays moins avancés, mais qui n'en est pourtant pas au niveau de la graduation. Pourquoi? Parce que le capital humain est encore assez faible. La formation du capital humain est encore assez faible. Vous prenez un autre pays comme l'Angola, qui indubitablement est devenu une puissance régionale, justement par ses richesses en pétrole, mais également par une armée très structurée, qui a acquis de l'expérience dans la guerre de libération, mais aussi dans la guerre contre la rébellion de Savimbi. Une armée très aguerrie au service du continent aujourd'hui, mais qui n'en demeure pas moins un pays moins avancé. L'autre catégorie de pays, c'est des pays qui n'ont pas de ressources naturelles, mais qui réussissent quand même à générer une croissance économique à deux chiffres.
Comme
l'Éthiopie. Ça fait une dizaine d'années que l'Éthiopie oscille entre 8 et 12% de croissance économique. C'est presque un tigre asiatique, ça. Un pays comme le Rwanda, qui réalise entre 7 et 8% de croissance économique par an. Et pourtant, ils n'ont que le thé et le café à produire. L'Éthiopie, c'est la même chose. Vous prenez un pays comme la Tanzanie, qui progresse très bien. Même des pays comme l'Ouganda qui font de grands progrès. Donc je peux vous citer beaucoup, beaucoup d'exemples de pays qui ont réussi à faire progresser leur économie, soit parce qu'ils sont riches en matières premières, soit parce qu'ils ont simplement adopté des modes de gestion et de gouvernance qui sont assez transparents, très rigoureux et qui permettent de faire l'évolution.
Alors, parmi ces pays-là, vous avez évoqué l'exemple du Rwanda, un exemple intéressant, d'autant plus que le Rwanda sort d'une guerre et réussit effectivement une effervescence économique sans précédent. Pourquoi le Rwanda a réussi là où la RDC ne réussit pas?
Je ne dirais pas que la RDC ne réussit pas. La RDC est en pleine transition. La RDC vient de tenir des élections présidentielles.
Avec le même président pour la troisième fois.
Législatives, en espérant que ça va donner des résultats, ça va faire progresser le pays dans un futur proche. Il y a une question de paix et de sécurité là-bas aussi. Il y a des régions qui sont pas nécessairement très dociles par rapport au gouvernement central, puis c'est un pays immense et très vaste. Le Rwanda est un pays dont la taille est assez limitée géographiquement, mais qui est très rigoureusement géré. Je pense que la gestion rigoureuse est quelque chose qui est pour beaucoup dans la réussite d'une économie africaine. Il faut pas se le cacher. Une bonne direction, une vision pour un pays aide beaucoup à dépasser quelques obstacles liés au développement de l'économie.
Vas-y, vise plus haut, change ta vie. Demain, ta partie relève le défi. Vas-y, vise plus haut, change ta vie. Demain, ta partie relève le défi.
Beaucoup de personnes, à part vous, les officiels des Nations Unies, disent que le maintien de la paix a réussi à l'est de la RDC.
À mon avis, les Nations Unies font un gros effort pour soutenir le gouvernement de la République démocratique du Congo à pacifier le pays. C'est un pays continent, c'est un pays vaste, très difficile à contrôler, où des régions ont pris l'habitude d'être autonomes par rapport au gouvernement central, et ça fait des difficultés pour ramener les choses dans un état centralisé. Cela étant dit, je pense que les Nations Unies contribuent au renforcement des capacités, contribuent à la réforme du secteur de la sécurité et de l'armée, et contribuent à soutenir logistiquement l'armée nationale, les forces armées de la République démocratique du Congo dans la lutte contre la rébellion.
Alors, moi, je vais vous rapporter ce que beaucoup d'ONG féminines, notamment, qui sont passées par chez nous à la Radio des Nations Unies et qui sont basées à l'est de la RDC, au nord, au sud Kivu, dans le Massissi, nous disent. Ils disent que le maintien de la paix, ce n'est pas pour eux, que le maintien de la paix n'a pas réussi à diminuer le viol des femmes, que le maintien de la paix n'a pas réussi à arrêter le mouvement de centaines de milliers de populations et que le maintien de la paix, souvent, sert de soupape pour les multinationales, pour l'exploitation des ressources naturelles de la République démocratique du Congo. Que répondez-vous à cela et ne me donnez pas une réponse d'officiel des Nations Unies, s'il vous plaît.
Non, je pense que la dernière partie des commentaires, je les nie catégoriquement. Les Nations Unies ne peuvent pas être impliquées dans quelques activités qui ne soient pas transparentes. Aller exploiter les ressources minières d'un pays, je pense que ça, c'est extrême. Nous avons une politique de tolérance zéro. Et depuis l'histoire de Oil for Food, que vous connaissez très bien en Irak, nous avons vraiment resserré davantage la vis. Et il y a très peu de loose ends, comme on dit, de parties qui échappent au contrôle. Ce genre d'activité n'appartient pas à ce que les Nations Unies font. Ce que nous faisons, c'est de venir dans un pays à la demande du pays et de l'assister à renforcer ses institutions. Et dans le cas de la RDC, je veux vous le dire, c'est une des rares expériences dans lesquelles les Nations Unies sont impliquées de façon active auprès des forces armées du pays pour aider à combattre les forces rebelles. Donc, il est possible qu'il y ait des insuffisances parce que quelle que soit la taille des contingents que vous déployez, pour un pays immense comme la RDC, nous n'en aurons jamais suffisamment. Quoique la RDC est, je crois, la deuxième mission en taille après le Darfour au Soudan. C'est la deuxième plus grande mission des Nations Unies qui ait jamais été déployée. Donc, je recuse les accusations. Et j'ose dire que s'il y a des insuffisances, évidemment, ces insuffisances seront corrigées selon les moyens dont disposent les Nations Unies aussi, parce que vous savez, ces opérations de maintien de la paix sont extrêmement chères. Et c'est les contributions des États membres qui les font fonctionner. Donc, il y a des limites à ce que des missions comme ça peuvent faire, et tout dépend du mandat qui leur est donné par le Conseil de sécurité. Mais dans le cas de la RDC en particulier, c'est un mandat sous chapitre 7 du Conseil de sécurité, qui donne donc l'autorisation aux forces des Nations Unies d'être actives et pour protéger les populations civiles. Donc je suis très surpris que ce genre de déclaration ait lieu.
C'est justement un de vos collègues aussi qui fustigeait les opérations de maintien de la paix, notamment l'ambassadeur de Jordanie aux Nations Unies, qui fustigeait les opérations de maintien de la paix et qui disait qu'on investissait, qu'on mettait beaucoup d'argent dans ces opérations et qu'il vaudrait mieux investir plus dans le développement plutôt que dans les salaires des casques bleus et dans ces opérations-là. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Je vais vous dire ma lecture. Ma lecture est la suivante. Il vaut mieux mettre les moyens dans la prévention. Et je crois que le secrétaire général est d'accord avec ça. Il a déclaré plus d'une fois qu'il est bon que la communauté internationale contribue à faire face aux exigences de développement socio-économique et aux exigences de justice sociale et de bonne gouvernance. Ça, c'est en amont, avant que la crise n'éclate. Une fois qu'on a décelé une faiblesse dans un système, que l'on soit proactif suffisamment pour aider le pays. Ensuite, quand on sent les tensions, qu'on emploie la diplomatie préventive pour empêcher que la crise ne survienne. Si la crise survient, on est obligé d'intervenir. C'est pas parce qu'on n'est pas efficace à 100% qu'on ne devra pas intervenir. Imaginez un pays en conflit sans aucune intervention du système des Nations Unies. Qu'on croise les bras et qu'on les laisse se battre entre eux. C'est inconcevable, c'est inhumain. Donc, quelles que soient les insuffisances, je pense que si le système n'avait pas existé, il aurait fallu qu'on l'invente.
Vous êtes très modeste, je ne voulais pas parler de vous-même. Cheikh Sidi Diarra, je vous remercie. Je sais que vous nous quittez sur le poste de conseiller de Ban Ki-moon pour l'Afrique, mais vous restez toujours dans les parages parce que vous êtes chargé des pays les moins développés et des pays sans littoral. Donc on aura l'occasion de se revoir pour de nombreuses autres interviews. Bonne route et merci beaucoup de cette causerie.
Merci beaucoup de m'avoir. Merci.
Cheikh Sidi Diarra, que nous allons rencontrer la semaine prochaine pour parler plus précisément des dossiers du Soudan, de la Côte d'Ivoire, de la Libye, du Sahel et de moments forts, inoubliables, avec le numéro 1 de l'ONU, Ban Ki-moon. Ne ratez surtout pas ce rendez-vous dans tout juste une semaine et grand merci de votre écoute et de votre fidélité. Au revoir.